Nous allons faire une première lecture dans le psaume 50, s'il vous plaît. Un psaume où Dieu veut parler. Dieu veut parler. C'est quelque chose d'important, mais il ne peut pas toujours parler. Et dans ce psaume 50, nous voyons que Dieu ne reste pas en silence. Il veut parler au cœur. Il veut parler au cœur d'un pécheur. Il veut parler au cœur des croyants. Il veut parler. Ce psaume l'exprime très bien. On peut le lire en partie, psaume 50, verset 2. On va lire à partir du verset 1. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Maintenant, il va expliquer le problème. Et Dieu dit au méchant, je rappelle que le méchant dans la Bible, ce n'est pas le pécheur. Le pécheur, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il n'est pas sauvé, il ne sait pas si Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Le pécheur, il ne connaît pas Dieu. Le méchant, c'est le croyant qui n'a aucune communion avec Dieu. D'ailleurs, la preuve, vous allez le comprendre. Dieu dit donc aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait. » Et je me suis tu. Et le Dieu qui voulait parler devra se taire. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. On peut dire alléluia. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Ce psaume est d'une clarté totale. Dieu convoque les hommes. Ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice, ce sont les croyants, les rachetés. Dieu veut parler. Dieu veut agir. Dieu veut intervenir. Il n'a que de cesse de vouloir bénir l'Église. S'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est bénir son peuple. Mais voilà. Il y a des attitudes et des comportements dans nos paroles qui font que Dieu se taira. Nous allons ce matin parler de nos paroles. Nos paroles, quelles sont-elles? Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et les nôtres, que sont-elles nos paroles? Que communiquent-elles aux autres? À ma famille, le mieux c'est de demander à la personne que vous aimez le plus. Quand je parle, comment c'est? C'est peut-être une question de loyauté profonde, de commencer à parler avec les gens que l'on aime, dire voilà, est-ce que mes paroles t'irritent ou est-ce que mes paroles t'apaisent? Parce que c'est quand même vraiment révélateur, le fruit de nos paroles. Nous sommes, vous le savez depuis plus de 2 mois, dans la vie de l'Esprit. Une chose est importante, nous devons faire des progrès. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne pourra pas ne pas faire de progrès. C'est inévitable. et nous pouvons évaluer les progrès que nous avons faits. Est-ce que nous recevons la grâce de Dieu en vain, comme les Corinthiens l'ont vécu? Est-ce que nous nous réunissons pour devenir meilleurs? Est-ce que nous nous réunissons pour devenir pires? Vous avez lu avec moi plusieurs reprises que Dieu a donné des pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Dieu ne donne pas des pasteurs pour que ce soit des hommes orchestres dans une église. Le pasteur doit chercher la pensée de Dieu pour la communiquer à l'église. Donc, vous devez comprendre que mon ministère dans cette assemblée, c'est pour vous aider à chacun à ressembler de plus en plus au Seigneur. Est-ce que c'est important pour vous de ressembler de plus en plus au Seigneur? Qu'à l'enlèvement, il n'y ait presque pas besoin de travail, voyez, pour la transformation. Tellement nous ressemblerions de plus en plus au Seigneur Jésus. Ça serait une belle affaire, hein, que nous ressemblions tellement au Seigneur qu'à l'enlèvement, il n'y ait presque pas besoin de transformation. Hein. On le lit souvent, Dieu veut que nous soyons des hommes faits. C'est important, nous ne pouvons pas nous contenter que du salut et dire voilà, moi je suis sauvé, j'entretiens mon salut du mieux que je peux, je vais à l'église, je lis ma Bible, je me tiens à carreau, je fais attention à ceci, à cela. C'est pas ça l'évangile. C'est de plus en plus devenir un homme fait, d'être de plus en plus identifié avec le Seigneur Jésus-Christ. La langue, quel ravage elle ne fait pas la langue. Quel ravage elle ne fait pas. Et je suis persuadé que s'il y a bien un domaine où la chair se manifeste, c'est bien au niveau de la langue. Comment parlons-nous des gens qui ne vont pas bien? Regardez avec moi. Quand j'ai préparé cette étude, j'ai beaucoup réfléchi, vous comprenez. Car c'est très sérieux, c'est archi important. Regardez avec moi, par exemple, quand Paul, dans les Philippiens, au chapitre 18, c'est juste après ce que nous a lu Michael tout à l'heure pour la Sainte-Seine, juste après. Philippiens, regardez, Philippiens chapitre 3, regardez ce que Paul pouvait dire, Philippiens chapitre 3, verset 17. Faut-il parler des gens qui vont pas bien? Eh bien oui, Philippiens 3, 17, regardez bien, ce sont des choses très sérieuses. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il parle des chrétiens, là, il ne parle pas des païens. Les païens, il y a longtemps qu'ils marchent en ennemis. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul parlait de ceux qui marchaient en ennemis de la croix, il en parlait même souvent. Et il y a des choses que l'on doit dire, non pas parce qu'on critique, mais parce que l'on avertit. Et je crois que la responsabilité d'un chrétien, la responsabilité d'un serviteur de Dieu, c'est parfois de dire certaines choses quand on amène les gens à marcher en ennemi de la croix. Et dans les églises d'aujourd'hui, où on ne prêche plus la repentance, où on ne prêche plus la conversion à Dieu, où on ne prêche plus la sanctification, où on ne prêche plus la consécration, on marche, je le résume, on marche en ennemi de la croix. Et il faut que vous sachiez que dans ces églises-là, il n'y a pas la bénédiction du Seigneur. C'est important. Regardez comment Pierre en parle. Pierre qui a renié le maître. Dans 2 Pierre chapitre 2. Vous savez, ce sont des choses importantes, parce qu'on se pose tous la question, il y a des choses, faut-il les dire, faut-il se taire? Alors c'est vrai qu'il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. 2 Pierre chapitre 2, regardez, 2 Pierre chapitre 2, on va lire le verset premier. Donc, c'est Pierre qui avertit, il ne critique pas, il ne médit pas, il avertit l'Église. La preuve, c'est dans la Bible. 2 Pierre 2, verset premier. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, donc dans le peuple de Dieu, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même, donc c'est une prophétie, parmi vous, de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, vous voyez pourtant lui il l'avait renié, vous voyez il est honnête, mais il a réglé le problème, il a réglé le problème, et on sait qu'il l'a réglé, c'est pour ça qu'il peut en parler. Reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Reniant le maître. L'apostasie se répand, je ne vous enseigne rien. L'apostasie se répand de plus en plus. Pierre parle de ceux qui ont renié le maître. Paul parle souvent en pleurant parce qu'il n'y a rien de marrant dans les églises qui abandonnent la croix. Pour plaire aux gens, pour faire de la démagogie, on ne va pas prêcher certaines choses, ça plaira aux gens, on ne parle pas de l'enfer, on va effrayer les gens. Écoutez, il faut dire ces choses. La Bible nous demande de prêcher toute la vérité. Il faut parler de l'enfer, il faut parler du paradis, il faut parler de la sévérité, il faut parler de la tendresse de Dieu, etc. Pierre et Paul avertissent. Le seul problème, c'est quand je dis les choses, si je dis les choses pour salir la personne, ça, c'est pas bien. Et ça, bien sûr, Dieu n'en veut pas. Nous sommes dans un cadre où, dans la vie de l'esprit, nous voulons travailler dans le perfectionnement. Alors, on va lire un texte, justement, qui indique ce qu'est un homme parfait. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est un homme parfait? Alors, dans l'épître de Jacques, c'est expliqué. C'est très bien expliqué. Jacques, vous allez voir ce qu'est un homme parfait. Jacques chapitre 1er, non, 3, verset 1er. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Vous avez vu? Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous avouerez que c'est quand même fort. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues, de l'eau salée, ne peut pas non plus produire de l'eau douce? Quelqu'un d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Amen. Voilà un texte qui nous parle d'un homme parfait. Est-ce qu'on pourrait mettre la ventilation, s'il vous plaît? Donc, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Voilà le niveau que Dieu veut que nous atteignions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avertir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire certaines choses. L'apôtre Paul a certainement dû être très critiqué par rapport à ses prises de position, mais c'était pourtant la volonté de Dieu qu'il dénonce, qu'il avertisse. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être avertis. Le Colossien, ne le cherchez pas, 1:28 parle justement de cette progression pour devenir un homme parfait. L'homme parfait, c'est le contraire du bébé en Christ. Paul a dû dire souvent, je vous ai parlé comme à des enfants. Des enfants qui ne veulent que le biberon. Voilà, il y avait un pasteur qui avait eu une vision en Amérique du Sud. D'ailleurs, un homme qui a vécu un réveil dans son église. Une nuit, il a eu un songe. Et dans l'assemblée, il y avait des centaines de personnes. Et c'était que des bébés. Et tous avaient un biberon. Et il a compris le message. C'est qu'il avait affaire à une église immature, de gens qui venaient juste pour le biberon et pour qu'on leur change les couches. Voilà la vision qu'il a eue. Je crois que l'église ne doit pas être composée de bébés. Si vous découvrez l'évangile, vous êtes un bébé en Christ, mais il serait très 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 inquiétant que vous ne grandissiez pas. Un enfant de 3 ans qui mesurerait 50 centimètres, déjà, ça commencerait à être inquiétant. Un chrétien, il doit grandir. La prédication, ça doit vous faire grandir. Les avertissements doivent vous faire grandir. La piété doit vous faire grandir. Si nous ne grandissons pas, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a que le diable qui se réjouit. Nous voulons voir le Seigneur être glorifié. Si vous portez de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. On l'a vu la semaine dernière. La profondeur des paroles révèle vraiment à qui on a affaire. On voit des gens, des fois, d'une légèreté. On le voit, ce sont des enfants spirituellement. Je crois qu'il y a un temps pour rire. Je crois qu'on a besoin de rire. Mais vous savez, la joie, elle ne vient pas par le rire. La joie, elle vient par l'onction. Si vous pensez que la joie vient avec le rire, vous vous tromperez. La vraie joie, elle vient avec l'onction. Si vous avez déjà connu l'onction de Dieu, vous l'avez vérifiée. Et tout cela qui nous rend matures, va nous permettre justement d'agir dans l'Église, d'être vraiment utile pour le royaume de Dieu. Vous comprenez, on va former des anciens, il est important que chacun de ces anciens vive dans l'assurance de la foi, soit capable d'avoir une maturité par rapport au jugement. Le jugement, ce n'est pas la condamnation, mais à évaluer des situations. Il y a des choses parfois dans l'Église qui nécessitent un peu de discipline. Et la maturité contribue à ce que des hommes dans une église protègent l'église, des hommes et des femmes, des hommes d'une maturité. Mais quand même, on voit l'échec qu'il y a aujourd'hui dans les églises, tant et tant d'églises, on en parlera tout à l'heure dans les annonces, qui réclament des prédicateurs. Cette semaine, 4 ou 5 pasteurs m'ont réclamé des prédicateurs pour la rentrée. Alors ces prédicateurs, il faut les former pour que ce soit des hommes, des référents. Est-ce que cela est biblique? Oui, c'est biblique. L'apôtre Paul a envoyé Apollos à Antioche parce que, il y avait besoin d'un ancien, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'un chrétien qui mûrit, il n'est pas emporté et flottant à tout vent de doctrine, dans la confusion. Monsieur Go, j'ai vu une émission, on va tous périr le 21 décembre 2012, c'est la fin du monde. Quand c'est les païens qui s'affolent, c'est de bonne guerre. Mais quand un chrétien est influencé, c'est ça, ils sont emportés à tout vent de doctrine. Moi je vous dis que tant que le Seigneur Jésus n'a pas enlevé l'Église, la terre ne sera pas détruite. Tant que le monde n'aura pas connu les 1000 ans de paix sur la terre, le monde ne sera pas détruit. Alors voyez qu'il y en a encore pour quelques semaines. Alors ne vous affolez pas en 2012, il y aura la grâce de Dieu, à moins que Jésus n'enlève l'Église, ce qui bien sûr accélérerait la colère de Dieu sur la terre. Mais avant, vous avez encore au moins 1000 ans, donc patientez. Oui, c'est vrai, ça vous fait rire. Mais mes frères et sœurs, moi ça ne me fait pas rire quand je vois des chrétiens qui sont dans la confusion, qui ont 10 ans de conversion. Vous voyez? Ça ne me fait pas rire du tout quand je vois des chrétiens qui ont 15 ans de conversion et qui sont emportés à tout vent de doctrine, qui sont dans la confusion parce qu'ils ont été dans une église où ils ont été perturbés. Si nous lisions la Bible sérieusement, avec le cœur ouvert, avec les oreilles, pas les physiques, celles du cœur ouvertes, je peux vous dire que nous ne serions pas emportés et flottants à tout vent de doctrine. Un chrétien qui mûrit, il voit les ruses et les moyens de séduction. Un chrétien qui a l'esprit alerte, il sait si quelque chose est biblique, il sait si quelque chose est charnel, il le sait, parce que l'Esprit de Dieu le lui révèle. Et nous devons faire attention, mes frères et sœurs, parce que parfois même les chrétiens spirituels peuvent se comporter d'une manière très charnelle, parce que ce sont les émotions qui prennent le dessus sur la parole de Dieu. Oui, un chrétien spirituel, il devra dire la vérité, mais il la dira avec amour. Si vous ne savez pas dire la vérité avec amour, eh bien écoutez, privez-vous-en. Il vaut mieux pas la dire. Les chrétiens ne sont pas des donneurs de leçons. Si vous ne savez pas dire la vérité, demandez aux gens ce que je t'ai dit, est-ce que je te l'ai bien dit. Parce que si vous ne dites pas la vérité, si vous dites mal la vérité, ça fera exactement l'effet contraire. Vous savez que nous sommes dans des temps difficiles. Vous le savez, nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Les croyants sont malmenés. Les chrétiens sont peut-être persécutés en Extrême-Orient. Mais laissez-moi vous dire que les chrétiens dans nos pays vivent une autre forme de persécution. Et l'abandon de la foi, l'apostasie, l'abondance, parce que c'est ça les paradoxes. D'un côté, Jésus prophétise des famines, Mais de l'autre, il parle de ceux qui vont se laisser appesantir par les excès du manger et du boire. Oui ou non? C'est écrit, voyez? Et il parle dans le même contexte. Donc, voyez, il y a ceux qui se font piéger par l'abondance. Ça devient un véritable piège. Il faudra de la sagesse. Est-ce que vous demandez à Dieu de la sagesse? Ou est-ce que vous pensez que vous en avez trop? Est-ce que c'est bien de demander de la sagesse? Moi, je régulièrement dis, Seigneur, donne-moi de la sagesse, parce que la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il faut de la sagesse, il faut du discernement, il faut de la sensibilité. On ne règle pas les problèmes tous de la même manière. Ah, moi, je vais te dire ce qu'il te faut faire. Anne-Laure, t'as un problème, je sais, moi, m'occuper des jeunes. Quand on entend ça, écoutez-moi, c'est pas parce que vous vous êtes occupé des jeunes que vous savez vous occuper des jeunes. Ce n'est pas parce que vous êtes occupé des personnes qui sont dans le deuil que vous savez vous occuper des gens qui sont dans le deuil. On a besoin continuellement d'être renouvelé pour avoir la pensée du Seigneur. Ça, c'est une forme d'orgueil. Nous ne devons pas dire la vérité, nous devons la professer. Regardez comment Paul parle de ces problèmes qu'il y a immoraux dans l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 2. Voyez comment il parlait. C'est quand même des choses qui font réfléchir. Voyez ce qu'on a lu, il en parle en pleurant. Il n'y a pas de quoi rire quand on voit les églises qui basculent dans les fausses doctrines. Mais il faut avertir, ce n'est pas un manque d'amour. Qu'on vient de pas me dire que c'est un manque d'amour de dénoncer les fausses doctrines. Sinon l'apôtre Paul et même Jésus manquaient d'amour. 2 Corinthiens chapitre 2, regardez verset 4. Il faut lire là tout, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça c'est à cause de Janson qu'on n'a pas le temps. 2 Corinthiens, mais je le pardonne. C'est dans une grande affliction... Dans une grande affliction, le cœur, comment vous avez ? Angoissé. Et avec beaucoup de larmes que je vous écris. Il y avait le péché dans l'église de Corinthe, il y avait un gars qui couchait avec sa belle-mère et il ne s'était pas affligé. Et vous savez, moi j'ai dû régler une situation il y a quelques jours. Et je suis honteux de ne pas avoir y vu clair. De ne pas y avoir vu clair. J'ai honte. Mais mes frères et sœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu ? Nous voulons vraiment voir la puissance du Saint-Esprit? Eh bien, il faut dire les choses. Paul avait une grande angoisse dans son cœur. Et il voulait bien sûr faire les choses comme il faut, parce que des fois, on a besoin quand même de faire attention. Si on ne doit pas être des démagogues, on doit quand même être des pédagogues. On doit dire les choses quand même avec une certaine souplesse. Mes frères et sœurs, la vérité, c'est quoi la vérité? C'est ce que moi, je pense? C'est ce que je considère comme étant vrai à l'égard de quelqu'un? Non. Rendre témoignage de la vérité, c'est dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout en la mettant en pratique, parce qu'on n'est pas crédible si on prêche la vérité et qu'on ne la vit pas. C'est vraiment de l'hypocrisie que Dieu n'approuvera jamais. Quand on dit les choses, il faut les dire selon ce que la Bible dit et il faut d'abord les vivre. Parce que quand la Bible parle d'un homme parfait, je crois que c'est pour nous encourager à extrêmement veiller sur la façon dont nous parlons aux autres. Ce n'est pas parce que si, parce que j'ai 30 ans de conversion, que je peux m'autoriser à faire la leçon à quelqu'un. Non, 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 non. On n'est pas des donneurs de leçons. Et je crois que tout doit converger autour de ce que l'apôtre Paul dit, notre vie, elle est cachée en Christ. Est-ce que votre vie est cachée en Christ? Est-ce que vous avez ce temps de privilégier dans la présence du Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire, ma vie, elle est cachée en Christ? Tous les jours, j'ai un moment dans le lieu secret où j'enracine ma communion avec le Seigneur, où j'approfondis ma communion avec le Seigneur. Nous ne nous rendons pas compte combien la langue peut faire des ravages. Dans le proverbe 18-21, ne le cherchez pas, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Lisez cette semaine le livre des proverbes et vous allez voir tout ce qui est rattaché aux paroles. Le bien et le mal que l'on peut faire, je pense que c'est l'arme la plus efficace dans la main du diable. Nos paroles, j'en suis convaincu. Regardez Job, les amis de Job, comment ils ont fait du mal. Et pourtant, il disait que des choses bibliques. La preuve, c'est dans la Bible. Vous voyez, j'ai pas réfléchi longtemps. Mais vous, mes frères et sœurs, ils n'ont dit que des choses d'une profondeur totale. Mais ce n'était pas approprié. Et ça a failli faire toute l'œuvre du diable. qui voulait, vous le savez, que Job maudisse Dieu. Mais si tu étais juste, tu crois qu'il t'arriverait ce pétrin? Qu'as-tu, toi, que nous n'ayons pas? Mais t'as vu dans quelle misère t'es si t'as tout perdu, mon pauvre? Mais c'est que t'es dans le péché. Et tout ce livre nous enseigne le mal que l'on peut faire avec des paroles, vous l'avez lu avec moi, capables d'enflammer tout le cours de la vie. Savoir parler, savoir se taire. Bien sûr que le meilleur, c'est qu'on lise un ou deux exemples de notre maître à nous. Matthieu 27. C'est le mieux. Regardez notre Seigneur qui savait se taire. Pourtant, croyez-moi, il aurait pu parler, mais vraiment. Matthieu 27. Regardez. Voilà, ça c'est le meilleur exemple, bien entendu. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Trois mots, tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le silence de Jésus. Vous ne croyez pas que Jésus aurait pu en profiter devant le roi Hérode? Vous ne croyez pas? Il n'a rien dit. Il y a des silences qui sont plus grands que des paroles. Croyez-moi. Regardez un peu plus loin, dans Jean 18. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il n'avait pas besoin de se justifier. Vous savez, quand on vous accuse, n'éprouvez pas forcément le besoin de vous justifier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, c'est pas. Vous savez, si vous savez tout ce qu'on me fait dire, si vous savez, toutes les semaines, Monsieur Gauss, c'est vrai que vous avez dit ça, je dis non, je ne me rappelle pas. Bon. Je ne veux plus en tenir compte. Des critiques ou des louanges, ça m'est égal. Je ne veux rien dire. Et je crois que c'est le témoignage du Seigneur Jésus. Regardez, Jean 18, 37. Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? C'est un peu le même contexte, vous voyez. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voyez, d'un côté le silence et de l'autre, dans la bouche de Jésus, qu'une seule pensée, le témoignage de la vérité. Voilà ce qui caractérise un vrai disciple. Parfait, savoir se taire, même si on est accusé, et rendre témoignage de la vérité. Alors attention au silence, parce qu'il y a des silences criminels. Nous aurions parfois dû rendre témoignage, et nous avons eu profondément honte parce qu'on ne l'a pas fait. C'est pas vrai? C'est pour ça que moi je recommande toujours que vous preniez des évangiles. C'est le meilleur témoignage que vous puissiez donner. Prenez toujours sur vous des évangiles afin de le donner à quelqu'un avec, à qui vous n'avez peut-être pas eu le réflexe ou la possibilité de témoigner. Dites, voilà, je suis chrétien, lisez l'évangile de Jean, s'il vous plaît, lisez-le. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Il y a des chrétiens, oh, j'aurais pu donner des évangiles, je ne l'ai pas fait. Il y a des silences extraordinaires, mais il y a des silences coupables. Oui ou non? La parole, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Jésus dira dans l'évangile de Jean que celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce matin, je lisais le prophète Jérémie. Et quand Jérémie dit au prophète, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi, tu seras comme ma bouche. Est-ce que vous vous rendez compte en arriver à un stade où lorsque l'on parlera, nos paroles seront la parole vraiment que Jésus aurait dite? Vous n'aspirez pas à cela? Il n'y a pas quelqu'un ce matin qui dit, oh, combien, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue, auprès des gens que je côtoie une fois dans la journée, une fois dans ma vie, ou auprès des gens que je côtoie tous les jours. Seigneur, je voudrais que mes paroles soient des paroles de grâce. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et allez, et on t'envoie une vanne, oh, c'était pas méchant, mais c'est dit. Oh, c'est pas ce que je voulais dire.
Ne le prends pas mal.
Oui, c'est pas sérieux. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais vous savez, on parle du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas bien. Des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui n'ont pas un comportement sain. Saint, S-A-I-N-T, Saint, S-A-I-N. Les deux. Moi, je crois que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il va avoir un comportement sain. Oui ou non? Quelqu'un qui est ivre de vin. Vous savez comment le comportement d'un homme qui est ivre? Il chante lui aussi, mais il ne chante pas les mêmes cantiques. Il a un comportement qui correspond à son ivresse, à son ivrognerie. Mais quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit doit avoir un comportement qui se transforme dans la sainteté. Oui ou non? Un chrétien qui a un comportement qui n'est pas sain, même s'il parle en langue, moi je vous dis, je réfléchis tout haut avec vous, je me pose des questions. Que sont nos paroles? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On pourrait donner comme titre à la prédication, mais que sont nos paroles? Que sont mes paroles pour cibler encore plus et que chacun de nous se sente concerné? Des paroles qui amènent la bénédiction. Dans une église, on doit se bénir. C'est écrit « bénissez ». Après, il faut avertir. Moi, je vous dis, j'avertis un frère l'autre jour, très sévèrement, et j'ai bien fait de le faire, parce que je crois qu'il faut veiller sur la sainteté dans l'Église. Des paroles qui amènent la bénédiction. Paul dira, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte que Dieu accepte, ce n'est pas les réunions le dimanche matin. Les cultes que Dieu accepte, ce sont des hommes et des femmes qui offrent leur vie, leur corps, parce qu'il y en a qui offrent que leur âme. C'est drôle comment certains sont intelligents. Ils offrent leur âme parce que c'est l'âme qui ressuscitera. Enfin là, attention, il n'y a pas que l'âme. Mais certains, vous connaissez, voilà, le corps, c'est pas grave, si vit dans la débauche, c'est que le corps, il retournera à la poussière, le mon pauvre corps. Enfin, écoute, tu le vois. Quel drame, quelle hypocrisie, que votre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles. On pourrait prendre tous les textes, mais le temps nous manque. Mes frères et sœurs, offrez vos corps. La bouche, ça fait partie du corps. Les lèvres, ça fait partie du corps. Qu'on utilise, qu'on parle de la bouche, des lèvres ou de la langue, oh, ça fait tout le temps allusion à nos paroles. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et franchement, un chrétien qui aurait le toupet, oui le toupet, de dire « Seigneur, je veux connaître ta volonté, je veux connaître ce qui est bon, agréable et parfait, et qui se conforme au siècle présent, qui vit dans la mentalité de ce monde, c'est un aveugle. Il est dans le pétrin. Dieu ne va pas pouvoir l'amener à discerner la volonté de Dieu, si tout en aimant Dieu, enfin aimant Dieu, la Bible dit que celui qui aime Dieu, il n'aime pas le monde. Alors mes frères et sœurs, nous devons veiller sur nos paroles. La vie de l'esprit, vous savez, je prie, vous le savez, je ne dis pas que je prie pour vous dire que je prie. Je prie parce que j'ai besoin d'avoir la pensée du Seigneur. Je prie parce que si je ne prie pas, je désobéirai à Dieu. Les hommes de Dieu, ils doivent prier, ils doivent s'adonner à la prière. Et ils doivent s'adonner à la prière et au ministère de la parole. Et je prie pour que le Seigneur révèle sa pensée à l'Église. Le baptême du Saint-Esprit, je ne pensais pas que ça allait nous amener aussi loin. Et pourtant, c'est le béaba encore, mes frères et sœurs. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui va automatiquement veiller aux paroles. Et ce n'est pas parce qu'on a de l'âge, je le répète, qu'on doit s'autoriser à mépriser les plus jeunes. Il faut les encourager, on va former les anciens, certains parfois présenteront la Sainte-Cène, s'ils parlent pas assez fort, on leur dira, si c'est que ça, c'est pas grave. Mais on va les former, est-ce que vous êtes d'accord qu'on forme des anciens? Il faudra faire ce que Dieu demande. Je sais ce que Dieu me demande en ce moment, ça me réoriente par rapport à mon emploi du temps, ça me va très bien puisque c'est la volonté du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, nous devons aider la jeunesse, nous devons les aider. Nous allons les former, nous allons former des anciens, nous allons faire ce que nous pouvons faire, on va le faire. Et je vais vous dire, si on fait ce qu'on peut faire, Dieu fera le reste.
Parce que nous ne commençons pas à dire, voilà, Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil. Voyez, j'ai parlé, combien je me réjouis ce matin. Il y a une sœur dans l'église, elle ne sait pas combien je suis content qu'elle soit là. Hein, Madame Georgie, est-ce que vous êtes heureuse d'être là ce matin? Vous êtes heureuse?
Oui.
Ouais. Depuis combien de temps vous vouliez venir? Oui, mais vous attendiez ce moment? Voyez, on devrait avoir honte. Honte qu'il a fallu qu'un frère qui soit là depuis le mois de septembre aille la chercher. Moi, j'ai honte devant Dieu. Seigneur, envoie ton onction. Baptise-moi du Saint-Esprit. On n'est pas capable d'aller chercher une grand-mère pour l'amener au culte. Franchement, si je suis sévère, levez-vous et dites-le. On devrait avoir honte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de consécration. Parce que quand quelqu'un est consacré à Dieu, sa vie, elle appartient à Dieu. Et j'espère que l'on va trouver des hommes, des femmes, des jeunes, des couples qui auront la joie, le privilège et l'honneur d'aller chercher toutes les grand-mères qui veulent venir au culte. Comment pouvons-nous parler de réveil et d'onction si on n'est pas capable de prendre soin de nos mères? Parce que dans la Bible, on n'est qu'une famille. Et Madame Georgie, pour être ma mère, combien de fois j'ai pensé y aller? Mais je vous avoue que je ne pense pas que c'est ce que Dieu me demande. J'aimerais le faire. J'ai envie de le faire. Mais je sais très bien que j'ai quand même intérêt à veiller sur mon emploi du temps aussi. Mais il n'y a pas quelques frères, quelques sœurs qui peuvent dire, mais moi, une fois par mois, le dimanche après-midi, bien sûr, si c'est le cinéma, si c'est le monde, c'est sûr que vous ne verrez pas ces choses. Et vous n'allez pas être d'accord avec ce que je vous dis. Et vous n'êtes pas d'accord. Mais en vérité, ce n'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord. C'est avec Dieu que vous n'êtes pas d'accord. Si vous ne vous consacrez pas, c'est pas avec Gérard Gaud que vous n'êtes pas d'accord. C'est avec Jésus. Je crois qu'une église, elle doit être composée de gens qui se consacrent. Et est-ce que c'est au grand-père de l'église? Quand je pense à certaines personnes âgées, qui ce sont eux qui vont faire les visites, tant mieux. Mais vous ne croyez pas que des jeunes pourraient se lever et dire, voilà, moi, une fois par mois, j'irai chercher Madame Georgie. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je règle des comptes? Est-ce que j'ai une tête à régler les comptes? Mes frères et sœurs, j'ai le cœur rempli de chagrin. De voir que dans une église, où on a de l'argent, on fait plein de choses, on envoie des milliers d'euros ici et là. Mais on ne peut pas aller chercher une grand-mère. Vous voyez, ce sont des petites choses. Mais il y a des choses qui plaisent à Dieu. Est-ce que vous le savez? Il y a des choses qui plaisent à Dieu. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Et ça ne lui plaît pas. Que dans une église où on a des voitures, où on a de la santé, où on a le dimanche après-midi, on ne soit pas capable d'y avoir pensé. Moi, je le dis parce que je suis poussé à le dire. C'est une façon de vous avertir, consciencieusement, avec beaucoup de cœur, de chagrin. Mais mes frères et sœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu, et il faut que les choses soient dites. Vous méditerez le psaume 50, et vous verrez que Dieu veut parler, et qu'il ne le peut pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Avoir un Dieu qui veut nous parler, et qu'on ne puisse pas l'entendre? Il y a quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, parle-moi, mais et qui apprenne aujourd'hui que par sa façon de parler contre les frères, parce que Dieu voit quand on, dans notre maison aussi, si on parle, oh, celui-là, il est complètement débile. Priez pour rien. Quand vous priez les prières, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Parce que Dieu, il n'est pas présent que l'Église. Dans votre chambre, il est là, le Seigneur. Eh oui. Et la sainteté, c'est dans la chambre, c'est dans le salon. C'est partout. Le réveil, c'est ça. Ce sont des gens qui obéissent à Dieu. Hier soir, j'ai prêché sur le sacrifice des insensés et les sacrifices de justice. Le sacrifice des insensés, je l'ai déjà dit, ce sont les gens qui font des choses pour Dieu, mais qui n'obéissent pas à Dieu. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 50. Quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as ton alliance à ma bouche et tu parles contre ton frère? Voilà, c'est ça le sacrifice des insensés. Je sers Dieu, mais je critique. Le sacrifice de justice, c'est quoi que ce soit que je fasse. Je suis dans un esprit d'obéissance à Dieu. Toute la journée. Et la Bible dit que Dieu bénit celui qui pratique la justice. Sur la terre entière, Dieu bénit celui qui pratique la justice. Prions le Seigneur quelques instants. Seigneur Jésus, nous croyons que tu peux nous aider à faire en sorte que de notre bouche sorte que de l'eau douce. Seigneur, nous ne voulons pas que notre bouche soit utilisée pour enflammer le cours de la géhenne. Nous voulons que notre bouche soit utilisée pour embraser le cœur des chrétiens dans la vie de l'Esprit. Nous voulons communiquer la vie de l'Esprit. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tous, toutes les fois où notre bouche a prononcé des paroles qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, oui, nous voulons être ces hommes parfaits, capables de tenir notre langue en bride. Seigneur Jésus, aide-nous à imiter ton attitude quand tu te taisais ou juste quand tu rendais témoignage de la vérité. Accorde-nous cette grâce. Merci Seigneur Jésus. Amen.